Vous écoutez
RMC.
Jeudi 11 juin,
l'info sur RMC.
Et 7h01 et Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Accélérer la cadence du déconfinement, plusieurs voix s'élèvent pour passer à la vitesse supérieure à l'école, dans les entreprises. Conseil de défense demain, allocution d'Emmanuel Macron dimanche soir. Parole contre parole, quatre familles de Vitry-sur-Seine portent plainte après l'interpellation de leurs adolescents. Ils auraient été insultés, la police dément. Faut-il déboulonner les statuts de figures pro-esclavage à Washington? C'est ce que demande la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Nous rejoindrons notre correspondant aux États-Unis. RMC 7h01, bienvenue à tous. Faut-il accélérer le déconfinement? L'épidémie ralentit, les chiffres sont concrets. Un peu plus de 900 patients en réanimation, 23 personnes décédées du Covid-19 ces dernières 24 heures, 200 foyers de contamination repérés depuis un mois. Il n'y a pas de reprise de l'épidémie, précise la Direction générale de la Santé, et plusieurs voix réclament la fin des mesures très strictes, notamment Jean-Michel Blanquer, qui souhaiterait le retour plus large des enfants à l'école. Romain Cluzel.
Je suis le premier à souhaiter un protocole sanitaire allégé, affirme le ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer espère des décisions dès demain, notamment pour réduire l'espace entre chaque enfant, ce qui permettrait d'accueillir jusqu'à 20 élèves en classe de primaire au lieu de 15 aujourd'hui. Le ministre souhaite aussi diminuer le nombre de nettoyages quotidiens dans les établissements pour faciliter l'organisation des communes et ouvrir plus de classes. Un scénario approuvé par Olivier Véran, qui est en revanche beaucoup plus inquiet par une réouverture trop précipitée des cafés et restaurants en intérieur en Île-de-France. Le ministre de la Santé veut s'assurer que l'épidémie est derrière nous et attend des chiffres consolidés avant d'assouplir les règles. Grande prudence aussi concernant les grands rassemblements. Le foyer épidémique de Mulhouse est encore dans les esprits et les seuils sont toujours très bas. Un groupe de 50 personnes peut représenter une possible bombe sanitaire.
Dans les entreprises également, les mesures sanitaires sont drastiques. Là aussi, le MEDEF demande d'accélérer la cadence pour un retour à la normale avant la phase 3 prévue le 22 juin. Fabrice Le Sachet est porte-parole et vice-président du MEDEF.
Il faut une parole forte du gouvernement. Pourquoi ? Parce que la réalité sanitaire a changé. C'est pas le MEDEF qui le dit, ce sont les autorités sanitaires. Il faut alléger les protocoles sanitaires qui pèsent lourdement dans l'activité des entreprises. C'est entre 10 et 15% de coûts supplémentaires pour les entreprises. Et puis, cette année, on prévoit 10 points de richesse en moins, 11% de déficit public en plus. Et il faut réellement accélérer.
800 000 emplois devraient être supprimés d'ici la fin de l'année en France. Bruno Le Maire a lâché le chiffre vertigineux hier soir. Ce choc, dit le ministre de l'Économie, doit appeler des politiques publiques massives pour accompagner tous ceux qui sont touchés. Éric Heyer de l'Observatoire français des conjonctures économiques s'attend à de vastes plans de licenciement en septembre.
Pour le gouvernement, le PIB va chuter de 11% en 2020. Et donc, il est quelque part normal, lorsque vous avez une chute aussi violente du PIB, que vous ayez beaucoup de destruction d'emplois. Jusqu'à présent, l'INSEE nous dit que l'économie a détruit 480 000 emplois tout de même. Essentiellement des contrats courts, des intérimaires. C'est plutôt à la rentrée, en septembre, que les plans de licenciement pourraient voir le jour. Puisque l'intégralité des béquilles, comme l'activité partielle, vont être réduites, c'est là où on verra l'ampleur des dégâts.
Et Emmanuel Macron s'exprimera dimanche soir à 20h. Il s'agira de la quatrième allocution du chef de l'État depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Une prise de parole deux jours après un conseil de défense décisif. Pierrick Bonneau.
Rien de surprenant dans ce calendrier, selon le député En Marche, Sacha Houlier. Le président est dans son rôle de capitaine.
Depuis le début de cette séparation de confinement et de déconfinement, il a fixé tous les grands caps. Et donc, il s'agit de faire ici une étape, une nouvelle étape, avant même que ne se déroulent ensuite les grands plans d'annonce et de relance.
Un capitaine qui cherche à s'imposer avant le deuxième tour des municipales, selon Damien Abad, le chef de file des députés Les Républicains.
On sent qu'il y a de la confusion, que le président de la République veut essayer de reprendre la main face à un Premier ministre populaire. On verra ce qui est dit, mais je trouve que cette intervention-là, alors qu'elle était prévue après les élections municipales, nous interroge sur la précipitation de ce calendrier.
Les socialistes dénoncent une manœuvre électoraliste. Selon Patrick Kanner, le patron du groupe au Sénat, cette allocution a du sens uniquement.
Si le président annonce de bonnes nouvelles, et pour moi les bonnes nouvelles, c'est notamment la prise en compte de l'urgence sociale. On a besoin d'un État protecteur en cette période. C'est le message que j'attends du président de la République.
Selon l'Élysée, Emmanuel Macron évoquera également le sujet sensible des violences policières en France.
Et justement, aujourd'hui et demain, Christophe Castaner va échanger avec les syndicat, des policiers. La profession a le sentiment d'être lâchée, désavouée par l'État. En début de semaine, le ministre de l'Intérieur prenait la tolérance zéro contre le racisme dans la police. Une technique d'interpellation a aussi été interdite. Christophe Castaner va donc devoir calmer la colère des forces de l'ordre. Et c'est dans ce contexte qu'une nouvelle affaire est mise en lumière. L'IGPN, la police des polices, va être saisie après l'arrestation fin mai dans le Val-de-Marne de 4 adolescents. Leurs familles ont porté plainte pour détention arbitraire, injures racistes et homophobes. Jean-Baptiste Bourgeon.
Les collégiens sont identifiés comme étant les auteurs d'un vol à l'arraché commis la veille. La police les interpelle. C'est là que les insultes fusent, racontent Sadi et Raphaël.
J'avais mon ami Lucas et Yacine. Il a dit, donc les deux négros, là, les deux noirs, tu les mets ici. Et il a dit, Yacine, toi, ça se voit, t'es un Africain avec ta tenue, tout ça.
Il m'a dit, où est-ce que tu es né? Je lui ai dit, je suis né à Châtillon-sur-Seine. Il m'a dit, mais toi, t'es un con de maghrébin, t'es un con d'arabe, ça n'existe pas, ça. Sincèrement, au début, moi, j'ai cru que c'était pas des vrais policiers. Je me suis dit, c'est juste des jeunes déguisés en policiers.
Vu comment ils nous parlaient, c'était, je pense, inadmissible.
Pour Reda Bellage du syndicat SGP Police Val-de-Marne, ces paroles contre paroles, il n'y a eu, selon lui, aucun incident.
On dément fermement. Il n'y a eu aucune violence, il n'y a eu aucun propos raciste dans cette affaire. J'ai eu les collègues au téléphone, ils ne comprennent pas en fait. Avec le contexte actuel, il faut vraiment faire attention. On généralise en disant que les policiers sont des gens violents, sont des gens racistes, c'est très difficile.
Une plainte pour injure à caractère raciste et homophobe a été déposée par les parents des adolescents. L'IGPN, la police des polices, est saisie de l'enquête.
Le frère de George Floyd a pris la parole hier devant le Congrès, un vibrant appel pour implorer les élus de mettre un terme à la souffrance des Afro-Américains et d'adopter des réformes significatives des forces de l'ordre. Aux États-Unis, où des statues de Christophe Colomb ont été décapitées, vandalisées, déboulonnées, à Boston, Miami et en Virginie, l'explorateur longtemps présenté comme le découvreur de l'Amérique est désormais souvent considéré comme une des figures du génocide des Amérindiens et des indigènes en général. Et cette nuit, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a demandé que les statues de confédérés du Capitole soient tout simplement retirées. Cédric Fesch, vous êtes le correspondant de RMC aux États-Unis.
Le problème avec les symboles des États confédérés, drapeaux ou statues, c'est que ce sont des symboles de ces États du Sud qui ont voulu faire sécession en refusant d'abolir l'esclavage. C'était en 1860. Et depuis, le drapeau, par exemple, est resté à la fois un symbole des États du Sud comme une région, mais aussi, et c'est là le problème, un symbole de ralliement pour les suprémacistes blancs, nostalgiques de cette époque où les Noirs avaient moins de droits que les Blancs en Amérique. Alors vous comprenez pourquoi on en reparle deux semaines après la mort de George Floyd, en plein mouvement de soutien aux populations noires. La polémique est relancée parce que l'armée a annoncé qu'elle voulait débaptiser ces bâtiments qui portent des noms de leaders confédérés. Donald Trump dit qu'il s'y oppose au nom de la défense de l'héritage américain, ça plaît à ses électeurs. Dans la même journée, la NASCAR a annoncé qu'elle interdisait le drapeau lors de ses courses de voitures, alors qu'elle a une grosse base de fans dans le Sud. C'est une ambiance explosive qui rappelle les événements de Charlottesville en 2017. Déjà, des manifestants défendaient les statues de confédérés. Une manifestante antiraciste avait été tuée, renversée par un pro-confédéré. Et Donald Trump avait fait scandale en déclarant qu'il y avait des gens bien des deux côtés, antifascistes et suprémacistes et néo-nazis.
On a aussi appris cette nuit que la star du basket LeBron James a annoncé la création avec d'autres sportifs d'une association, objectif promouvoir le vote des Américains noirs à l'approche de l'élection présidentielle. En France, nous sommes à deux semaines et demie du second tour des municipales. Aujourd'hui, nous nous rendons à Moissac, troisième ville du Tarn-et-Garonne, 13 000 habitants. Le candidat Rassemblement National, Romain Lopez, 31 ans, est arrivé en tête le 15 mars dernier avec 47% des voix. Face à lui, Estelle Ebami, les listes citoyennes de gauche, 23% des suffrages exprimés. La participation sera la clé de ce scrutin. Le reportage de notre envoyé spécial, Jean-Wilfried Forquès.
Discussion à bâton rompu du chef de file de la liste du Rassemblement National avec des commerçants du cœur de ville.
Nous avons quelques propositions sur les droits de terrasse, sur la taxe de séjour. Bon,
Eric est coiffeur, il écoute avec attention celui qui est arrivé en tête au premier tour.
Dans le contexte actuel, toutes les propositions seront bonnes à prendre pour aider et soutenir tous les gens qui pour traverser cette crise.
Mais la crise sanitaire n'est pas la seule priorité de Romain Lopez, il veut s'attaquer à d'autres dossiers.
Multiplication des incivilités, multiplication de l'insalubrité, augmentation du chômage, de la pauvreté, un tourisme qu'on n'arrive pas à maintenir sur site.
Face au candidat du Rassemblement National, il y aura une liste citoyenne conduite par Estelle Emami, enseignante. Elle aussi tente de convaincre.
Toutes les voix vont compter. Les Moissaguais ont besoin d'être écoutés. Ils l'ont montré sur ce premier tour où certains se sont mobilisés. Donc ils ont donné des voix à M. Lopez. Mais en fait, ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la population moissagaise.
Au premier tour, ici, un électeur sur deux ne s'était pas déplacé pour voter.
Et Jordan Bardella sera votre invité, Jean-Jacques, à 8h35.
Le vice-président du Rassemblement national, député européen. Il est 7h11 minutes. Merci d'être avec nous. Témoignage exclusif ce matin, celui de Maître Yaël Godefroy, l'avocate d'Alex. Mais oui, Alex, vous savez, ce policier noir de 43 ans qui travaille dans un commissariat de Rouen et qui a été victime d'insultes, d'injures racistes. Maître Yaël Godefroy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, décembre 2019. Yaël, merci d'être là. Alex, en décembre 2019, est en poste à l'unité d'assistance administrative et judiciaire de Rouen, un service dédié aux escortes des justiciables. Il est en vacation avec un jeune collègue, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein ?
Non.
Il est en vacation avec un jeune collègue dans une guérite. Sur le téléphone de ce collègue, Alex voit s'afficher des messages mentionnant son prénom. Alors, il regarde, il lit, et le jeune fonctionnaire, son collègue, adjoint de sécurité, lui montre ses échanges tenus sur un groupe WhatsApp composé d'une dizaine de policiers. Et là, il voit des choses horribles, hein, persuadé de l'imminence d'une guerre raciale. Ces policiers accablent d'injures tous les ennemis de la race blanche, les femmes, les arabes, les juifs, les noirs, les homosexuels, enfin bon, etc., etc. Dans l'attente de la guerre civile raciale dont ils rêvent, les membres de ce groupe évoquent à plusieurs reprises leur désir de s'armer. Et évidemment, ils insultent Alex parce qu'il est noir. C'est bien cela, Maître Godefroy.
C'est tout à fait ça.
Exactement. Combien de policiers aujourd'hui sont concernés par cette affaire ?
Alors, sur ce groupe WhatsApp, on sait qu'il y a à peu près une dizaine d'intervenants. Il faut être en mesure de pouvoir rattacher les conversations aux différents policiers, ce qui n'est pas une mince affaire et c'est ce que j'espère que l'enquête permettra d'affiner. A priori, on compte 6 intervenants actifs dans le cadre des propos que vous avez cités. Étant précisé tout de même, malgré tout, que je dois vous préciser immédiatement qu'il y a une procédure administrative en cours à laquelle je n'ai absolument pas accès, disciplinaire, donc je ne sais pas combien de personnes seraient renvoyées devant le conseil de discipline. Et s'agissant de l'enquête pénale, pour l'instant, c'est en réalité pas grand-chose.
C'est-à-dire qu'il y a opacité totale à l'intérieur de la police. On ne sait pas ce que devient l'enquête administrative. Est-ce que les policiers qui sont impliqués sont toujours en poste ?
Alors l'enquête administrative, moi ce que je sais c'est par le biais de la presse, hein, sinon je ne suis informée de rien, mais l'enquête administrative manifestement serait bouclée, je mets au conditionnel, je reste prudente et une comparution devant le conseil de discipline serait programmée, mais je n'en sais pas, notamment je ne peux pas vous donner de date ni le nombre de policiers qui seraient renvoyés devant cette commission de discipline. Et s'agissant de l'enquête pénale, je vous le dis, j'ai appris encore une fois par le biais de la presse qu'une audition aurait été réalisée, je garde le conditionnel également, le 3 juin dernier, mon client vient de recevoir la médiatisation de ce dossier, malheureusement il aura fallu en passer par là, a permis que l'enquête avance et mon client a reçu une convocation pour être entendu d'ici quelques semaines par l'IGPN de Rennes.
D'ici quelques semaines, est-ce que les policiers impliqués sont toujours en poste ?
Alors à ma connaissance, la semaine dernière ils l'étaient encore. Est-ce qu'une décision a été prise de mise à pied à titre conservatoire entre la semaine dernière et cette semaine ? Je ne le sais pas, je le souhaite, je pense que c'est des personnes qui sont censées... Vous savez, hein, quand on est policier, on a la garde, la répression, mais aussi la préservation des gens, la protection des gens. J'espère que ces personnes ne sont plus en poste aujourd'hui, je n'en ai absolument pas la certitude et je ne peux malheureusement pas l'affirmer.
Oui, Alex vient d'être convoqué donc par l'IGPN de Rennes, c'est bien cela,
hein,
pour un entretien... En qualité de victime, c'est ça,
oui,
maître ?
Oui, tout à fait. Une audition comme victime, tout à fait. Ce que nous espérions depuis maintenant quelques mois.
Oui. Il est quand même question d'armes dans cette discussion. Hein ?
Tout à fait. Il y a
toute une idéologie derrière, mais il est question d'armes.
Bien sûr.
S'armer.
Oui, il s'interroge sur la dangerosité de ces fonctionnaires de police. Bon, alors après, est-ce qu'on retrouvera ces armes ? C'est la raison pour laquelle on souhaite que l'enquête avance, hein. C'est qu'on espère que le temps est l'ennemi de la preuve. Et plus on attend, et moins on a de chances d'obtenir des preuves concernant les soupçons ou les craintes qu'on peut avoir à la lecture de ces auditions. Est-ce que, par exemple, il ne sera pas trop tard si on fait des perquisitions, si les autorités de police, ou gendarmerie, je ne sais pas qui sera chargé de l'enquête, a priori pour l'instant, c'est l'IGPN, donc si la police va faire des perquisitions, est-ce qu'on va trouver des armes chez ces policiers-là ? J'ai quelques craintes sur l'altération des preuves qu'on aurait pu avoir si l'enquête avait été plus rapide.
Que demande Alex ?
Il veut que justice passe, Alex. Il veut que justice passe, il veut qu'il y ait un débat. Il veut pas être un symbole, hein. C'était véritablement pas son objectif. Il souhaite qu'il y ait un débat sur le racisme au sein de l'institution de la police, mais plus largement également. Il met pas tout le monde dans le même paquet. L'idée pour lui, c'est pas de jeter l'opprobre sur les 150 000 policiers français, c'est pas ça. En revanche, il est très très attaché à dire qu'il ne s'agit pas non plus de faits de brebis galeuses et c'est que le racisme dans la police, la xénophobie, l'homophobie n'est pas non plus exceptionnel, n'est pas rare. Et véritablement, il veut que son dossier soit l'occasion d'un débat plus large, d'un procès où les choses seraient discutées en présence des associations. Voilà, que ça le dépasse, tout simplement.
Alex en souffre aujourd'hui dans l'exercice de son métier.
Alors, il serait mieux placé que moi pour vous répondre. Ce que je sais, c'est que c'est très compliqué. Ça a été compliqué. La décision de porter plainte a été extrêmement rapide, mais ça ne se fait pas avec légèreté. Hein. Porter plainte contre son corps de métier, c'est quelque chose de violent. Chacun pourra l'imaginer. Et puis, il a eu un deuxième choc. Là, il travaillait le jour où tout a été médiatisé. Il a découvert l'ampleur que tout cela a pris le soir même. Ça a été compliqué. Et il a eu deux sortes de réactions. Des soutiens de magistrats qui sont venus le voir, de certains de ses collègues aussi, d'anonymes qui passent par moi, par mail, qui m'écrivent en me disant « Soutien, votre démarche est celle de votre client ». Et puis, il a eu des réactions beaucoup, beaucoup plus réservé. On lui a reproché d'avoir attisé le feu, attisé la haine contre les policiers. On lui a reproché d'avoir trahi son corps de métier. Donc, il est dans une position qui est difficile. Voilà. Mais pour l'instant, il garde le cap. Il est très, très attaché à dénoncer le racisme. C'est quelque chose auquel il est viscéralement attaché.
Il est attaché à dénoncer le racisme et il est attaché à la police aussi. Aime son métier.
Tout à fait, tout à fait. Il est très attaché aux valeurs aux valeurs républicaines, aux valeurs de protection de l'ordre public et de ses concitoyens. Il a jamais envisagé, en tout cas pour l'instant à ma connaissance, il a pas du tout envisagé de changer de métier. Non, c'est quelqu'un qui aime son métier véritablement.
Qui aime son métier et qui veut que la vérité soit connue. Hein.
Exactement.
Soit connue aussi pour. Est-ce qu'il veut que la vérité soit connue aussi pour protéger l'institution ?
Probablement. Alors, c'est compliqué pour moi de répondre à sa place. Oui, je pense que le fait qu'il est attaché à son métier.
Mais j'imagine que vous en avez parlé.
Vraisemblablement. Oui, bien sûr. Mais ça va avec le fait qu'il soit attaché aux valeurs de sa profession. C'est l'institution en elle-même, si vous voulez, c'est très abstrait. Ça ne veut pas dire grand-chose. Lui, il est sur le terrain, donc il souhaite évidemment pouvoir travailler sereinement. Il a envie que ses collègues puissent travailler sereinement, mais avec une véritable exigence liée à ce que représente la police dans une république.
Il ne cherche pas la vengeance.
Pas du tout.
Il ne veut pas que ses anciens collègues soient. Je ne sais pas quelles seront les sanctions, s'il y a sanctions, nous verrons bien.
Elles seront nécessairement légères, puisque de toute façon, les faits à supposer qu'ils soient poursuivis, à supposer qu'il y ait une sanction pénale qui soit prise, ce sont des contraventions qu'ils encourent à titre principal, une peine d'amende. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on ne veut pas non plus que ces policiers servent de fusibles, vous voyez. Et que on se dise, on a trouvé six brebis galeuses, on les a sortis de la police et maintenant tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Pas du tout. Donc c'est pour ça précisément, comme je le disais dans un reportage que vous avez peut-être entendu, de pas la tête des policiers, c'est pas ça. Très clairement, c'est pas ça. Il est effectivement pas du tout dans une idée de vengeance.
Merci, maître Yael Godefroy. Merci beaucoup, avocate d'Alex. Merci beaucoup. Merci, c'est la première affaire, c'est l'affaire qui a déclenché toute cette immense réflexion sur le racisme dans la police. Maître Yael Godefroy, ce matin, sur RMC, c'est là que ça se passe le matin. RMC Découverte, le canal 24, la chaîne 24 que vous aimez. Il est 7h19.
À suivre dans Bourdin Direct, la CAF, la Poste, ça se déconfine très timidement dans les services publics. Difficile d'obtenir un rendez-vous. Du pain quotidien, c'est dans une minute sur RMC.
RMC, du pain quotidien.
Yeah, le déconfinement est terminé enfin dans les services publics. CAF, Centre des Infos.
Vous allez un peu vite, en tout cas, la Poste, c'est encore bien confiné.
Ils n'ont pas forcé à la Poste pendant. Non, mais c'est vrai. Je dis ça à la direction de la Poste. Non, je vous dis ça parce que
vous avez vu
les fils. Non, est-ce que vous avez vu Est-ce que vous avez vécu les fils devant les bureaux de Poste?
Oui, mais moi je trouve que c'est assez bien organisé. Il y a des gens à l'accueil, ils viennent vous voir.
Oui, ça c'est bien organisé.
Non, c'est vrai que c'est bien organisé. Ça dure toujours des files d'attente à la poste, sauf que là, elles sont dans la rue.
Mais c'est la nouvelle organisation de la poste. La nouvelle organisation.
Je trouve qu'ils sont assez bien organisés. En tout cas, ils n'ont jamais fermé totalement les bureaux de poste.
La poste, ça fonctionne bien ou pas?
C'est bien organisé, mais je ne comprends pas pourquoi tous les bureaux ne sont pas ouverts. Encore aujourd'hui, il y a des bureaux fermés.
La plupart des bureaux sont ouverts et ils ont assuré un service pendant tout le confinement.
Bon, d'accord. Bien. Alors, les services publics rouvrent leurs portes.
C'est progressif.
C'est progressif,
effectivement, mais ça commence à rouvrir. Bon, il faut quand même partir du principe vous avez des démarches à faire à distance, il faut toujours privilégier les démarches à distance, ligne, au téléphone, etc. Mais effectivement, par exemple, les caisses d'allocation familiale commencent à rouvrir. Il y a des accueils maintenant, mais toujours
l'accueil,
pas de guichet.
Oui,
donc, il y a des personnes à l'accueil. Vous pouvez y aller pour obtenir, par exemple, un rendez-vous, mais les rendez-vous seront toujours réservés aux personnes en situation d'urgence. Et puis, c'est un peu pareil pour les caisses d'assurance maladie, où les rendez-vous sont toujours réservés aux cas très particuliers. Et mais il y a des rendez-vous maintenant.
Et les caisses de retraite?
Pour l'instant, elles sont toutes encore fermées. Ouais. Mais l'objectif, c'est d'ouvrir au moins un accueil par département d'ici la fin du mois. Là encore, ce sera uniquement pour les dossiers compliqués et urgents. Par exemple, une personne en situation de veuvage qui devrait demander une pension de réversion.
Version.
Ou quelqu'un qui a sa retraite là au tout début de l'été et qui a rien fait, qui est complètement perdu, on va lui donner un rendez-vous.
Bon, et pour les impôts, ça va mieux les impôts.
Les impôts,
fonctionne bien.
Pôle emploi, c'est pareil, c'est toujours sur rendez-vous.
C'est un service formidable.
Non, il n'y a pas d'accueil, c'est que sur rendez-vous aussi. Ouais.
Je dis ça, vous n'êtes jamais allé.
Je les adore. J'y vais même pour le plaisir des fois. J'ai rien à demander. Et puis une petite heure à parler taxes d'habitation, là, on s'éclate.
La poste alors, donc la poste.
Oui, bah, voilà,
parce que quand même, le courrier, pendant le confinement, il était confiné aussi, le courrier.
Non, mais vous rigolez ou quoi? La plupart des bureaux ont rouvert. Et puis il y a les commissariats aussi qui ont rouvert.
Oui.
Mais bon, il faut toujours privilégier quand même les démarches à distance aussi.
Ah, d'accord.
Il y a pas mal de plaintes qui sont possibles à faire en ligne.
Merci Marie. L'actu des réseaux sociaux avec Charles Magnin.
RMC. Hashtag Magnin.
Voilà que la plateforme américaine a beaucoup parlé hier un peu partout. HBO Max décide de retirer temporairement de son catalogue le film Autant d'emporte le vent. Car elle juge le film raciste. Il sera remis en ligne avec un avertissement afin de restituer le contexte. On va y revenir avec Nicolas Poincaré à 7h50 dans Expliquez-nous. Mais Charles, cette décision a fait bondir les internautes.
Un véritable tollé hier sur Twitter quand le politiquement correct vire au révisionnisme culturel, dit un internaute. Je suis donc considéré comme trop bête pour contextualiser le film moi-même, s'indigne un autre internaute. Et en même temps, dit un internaute, c'est sûr que trouver un film qui parle de la guerre de sécession sans parler de blanc et de noir, c'est pas évident. Et puis beaucoup s'inquiètent pour la suite. Si on poursuit avec cette logique, faut-il bannir le titre Noir c'est noir de la discographie de Johnny Hallyday, se demande un internaute, quand une autre estime qu'il faudrait que l'intégralité des films Batman soit supprimée. En effet, un milliardaire qui roule dans une voiture polluante en pleine crise écologique, c'est aberrant, dit cet internaute.
Vous allez en parler, Nicolas Poincaré, tout à l'heure.
Oui, est-ce que Scarlett O'Hara, l'héroïne, est raciste? En tout cas, elle vit dans une famille qui possède des esclaves et c'est vrai que le film présente l'esclavagisme sous un jour très positif, très, très romantique. Est-ce qu'il faut pour autant censurer le film? On va continuer à se poser la question tout à l'heure.
Tout à l'heure, à 8h10, les explications de Nicolas Poincaré. Une info qui a fait sourire les internautes, Charles. Le Dalai Lama va sortir son premier album.
Oui, à bientôt 85 ans, le chef spirituel du Tibet se lance dans la musique. Son album intitulé Monde intérieur va sortir le 6 juillet prochain, composé avec des étudiants néo-zélandais. 11 titres sur lesquels le Dalai Lama récite des mantras. Le premier single s'appelle Compassion en écoute. A priori, ce ne sera pas le tube de l'été sur les dance floors. Beyoncé et ne seront pas menacés en tête des charts.
Pour
mais les internautes,
c'est parfait.
Les internautes, en tout cas, ont souri en apprenant que le Dalai Lama sortait un album. Beaucoup se demandent si le Dalai Lama chantera en duo avec Serge. Les plus audacieux voudraient un trio avec Bernard Lama, l'ancien gardien du PSG. Une internaute espère une reprise du tube Zen, soyons zen de Zazie. Un autre le surnomme déjà Lama Del Rey, en référence à la chanteuse
chanteuse Lana Del Rey. Et puis, certains redoutent que, comme dans le rap, on se dirige vers un nouveau clash entre Bouddha et Caris. Avec la gare à l'aéroport en prime.
Il est 7h30. Mathieu Rouault.
À suivre, on va rester sur Internet. Bloquer l'accès des sites pornographiques aux mineurs. Trouver un mécanisme qui permettrait de réellement le faire. C'est tout l'enjeu de l'amendement défendu par Marie Mercier, la sénatrice Les Républicains de Saône-et-Loire. Elle va nous expliquer comment elle compte s'y prendre juste après le journal de 7h30 sur RMC.
Merci d'être là sur RMC et RMC Découverte, la chaîne 24. Il est 7h31, Anne-Sophie Balbir est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. L'accès aux sites pornographiques bientôt bloqué pour les mineurs. Le Sénat a adopté un amendement pour contrôler l'âge des visiteurs. La méthode, scanner sa carte bancaire ou s'identifier comme pour les impôts ou l'assurance maladie. Après 2 mois de quasi-silence, le retour d'Emmanuel Macron devant les Français, allocution prévue dimanche à 20h. Et puis la réouverture du Puy du Fou ce matin. La fréquentation estivale pourrait être divisée par 4 par rapport à une année classique. On a assisté au dernier préparatif RMC 7h31. Si vous avez un enfant qui a entre 11 et 14 ans, il a sans doute déjà été exposé à la pornographie au moins une fois. Il faut dire que les sites comme YouPorn ou Pornhub sont gratuits, faciles d'accès. Il suffit de confirmer qu'on a bien 18 ans ou plus. Mais ça pourrait bientôt changer. Le Sénat a adopté un amendement qui permettrait de contrôler l'âge des visiteurs. Juliette Pietraszewski, Nicolas Trénaud.
Pour visiter une plateforme pour adultes, il faudrait scanner sa carte bancaire ou s'identifier comme sur le site des impôts ou de l'assurance maladie, plus fiable pour empêcher les mineurs de tricher. Thomas Romer défend depuis plusieurs années cette solution avec l'Observatoire Open pour la protection des enfants sur Internet.
On ne peut que saluer cette initiative. Aujourd'hui, cocher une case pour dire j'ai plus de 18 ans, c'est pas suffisant. Il y a des dispositifs qui sont testés dans d'autres démarches où on est amené à vérifier la majorité des personnes qui se rendent sur les sites. Ces dispositifs méritent d'être étudiés comme n'importe quel autre.
Sauf que certains éditeurs de contenu pornographique sont contre. Carmena, réalisatrice de films et rédactrice en chef d'un site spécialisé, est scandalisée.
La solution qui a été proposée également, c'est de passer par France Connect, le site qu'on utilise pour gérer ses comptes de service public ou pour payer ses impôts. Qui aurait envie de passer par France Connect pour consulter des sites pornographiques sur son temps de loisir? Ça me paraît un petit peu aberrant. Ça peut potentiellement m'obliger à fermer et le magazine, le Tag Parfait, et ma société de production.
Et si l'amendement est adopté à l'Assemblée, le CSA pourra saisir la justice et ordonner le blocage des sites pornographiques qui ne demandent aucune preuve d'âge aux visiteurs.
Et la rapporteure du texte, Marie Mercier, sénatrice Les Républicains de Saône-et-Loire, et votre invité Jean-Jacques, juste après ce journal sur RMC. Il n'y a pas de signe de reprise épidémique en France, pour le moment en tout cas, c'est ce qu'a dit hier soir la Direction Générale de la Santé. L'épidémie est maîtrisée, mais le virus est encore là. 23 personnes de plus sont mortes du Covid en 24 heures. Caroline Philippe.
500 nouveaux cas sont détectés en moyenne par jour en France. Le virus n'a pas disparu, mais il circule très peu, comme le note le professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation médicale à l'hôpital Lariboisière à Paris.
Nous constatons encore un certain nombre de patients qui consultent aux urgences de notre hôpital, environ un tous les 2 à 3 jours. À l'inverse, les cas actuels sont essentiellement des cas avec des symptômes mineurs. Et en réanimation, voici 2 mois que nous n'avons reçu aucun patient présentant une forme avec pneumonie grave.
Preuve que le confinement a cassé l'épidémie et affaibli le virus, la France retrouve aujourd'hui une situation équivalente à celle de février dernier, selon Jacques Battistoni, médecin généraliste et président du syndicat MG France.
Qu'est-ce qui fait qu'on repasse pas en phase épidémique? Probablement le fait qu'aujourd'hui, contrairement à février, les gens respectent les mesures barrières et donc chaque personne que nous testons positif, on se rend compte qu'elle a que 2 ou 3 personnes au maximum, souvent qu'elle a pu contaminer.
Cette distanciation sociale et le dépistage des cas contacts ont permis de contenir les 200 foyers de contamination recensés depuis le 9 mai dernier.
Alors Emmanuel Macron a rendez-vous avec le Conseil scientifique demain pour faire un point justement sur la situation sanitaire. Est-ce que le président va décider d'accélérer le déconfinement? On en saura peut-être plus dimanche à 20h. Le chef de l'État doit s'adresser aux Français pour expliquer les mesures économiques et sociales du gouvernement. Prise de parole qui sera scrutée de près par Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat.
Moi, j'en attends deux messages. Un message de fermeté, un message d'unité. Le message de fermeté, parce qu'on a vu que l'État ployait les Chines, des manifestations qui étaient interdites, finalement autorisées. J'en attends surtout un message d'unité. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'il y a des menées d'un certain nombre de groupuscules, d'un certain nombre de minorités, qui voudraient assigner les Français à leur couleur de peau, à leurs origines, en faisant croire que la France, elle est raciste, que les policiers, les gendarmes sont racistes. Et ça, ça n'est pas tolérable. Donc, je lui demande évidemment d'aborder ces sujets. C'est aussi ces sujets qu'attendent de lui les Français.
Deux semaines après la mort de George Floyd, la mobilisation anti-racisme et anti-violence policière se poursuit aux États-Unis. Nouvelles actions ces dernières heures. Une statue de Christophe Colomb a été décapitée à Boston, une autre vandalisée à Miami et une troisième jetée dans un lac en Virginie. Le frère de George Floyd, lui, a lancé un appel devant le Congrès des États-Unis. Il demande aux élus d'adopter des mesures significatives pour mettre un terme à la souffrance des Afro-Américains.
Je suis ici pour vous demander de faire cesser tout ça. Arrêtez la douleur, mettez fin à notre lassitude. George a demandé de l'aide et il a été ignoré. S'il vous plaît, écoutez mon appel, les appels de notre famille et les appels lancés dans les rues du monde entier. Trop c'est trop. Les gens qui manifestent dans la rue vous disent trop c'est trop. Soyez les leaders dans ce pays et ce monde ont besoin. Soyez juste. Le nom de George signifie quelque chose et vous avez une chance aujourd'hui de faire que votre nom signifie aussi quelque chose.
En France, les syndicats de policiers sont reçus aujourd'hui et demain au ministère de l'Intérieur. Les propos de Christophe Castaner sur le racisme et la décision d'abandonner la méthode d'étranglement ne passent pas. Et puis, c'est l'un des premiers grands parcs de loisirs à rouvrir ses portes depuis l'épidémie de coronavirus. Le Puy du Fou, en Vendée, à 9h ce matin. Le public sera soumis à des règles sanitaires, évidemment. Les 2500 employés aussi. Anaïs Denay, vous avez pu assister aux dernières heures de préparation avant la réouverture.
Des Gaulois et des Romains qui s'affrontent, des comédiens masqués observés avec attention par Sébastien, le responsable spectacle.
On va enfin pouvoir montrer à tous nos visiteurs qu'on a bien travaillé pendant toute cette période un peu spéciale. La chorégraphie des combats a été modifiée pour éviter les contacts rapprochés.
Pas de contact non plus côté gradin, des mesures ont été prises pour les visiteurs. David Nouaille est le directeur général adjoint du Puy du Fou.
Nous avons condamné en fait une travée sur deux, de sorte qu'il y ait un rang d'écart entre chaque groupe de visiteurs. Sur l'ensemble du parc, nous avons également installé tout un dispositif avec des points de gel hydroalcoolique, plus de 250 qui seront répartis sur l'ensemble du parc.
Depuis quelques jours, les réservations sont de plus en plus nombreuses. Le parc, qui attire 85% de visiteurs français, espère tirer son épingle du jeu cette année.
Il y a un mot d'ordre, c'est voyager français, faites vivre les commerces et les destinations françaises. On espère effectivement profiter de ce renouveau du tourisme français.
Et le Puy du Fou a aussi investi dans un tout nouveau spectacle nocturne, les Noces de Feu, présenté pour la première fois demain soir.
Les courses, Mathieu, c'est à Compiègne.
Oui, autre ambiance, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Favori numéro 6, Tabula Rasa. Outsider numéro 2, Chasselet. Le 6 et le 2.
Merci. Merci à vous. Il est 7h38. Marie Mercier est avec nous, sénatrice Les Républicains de la Saône-et-Loire. Marie Mercier, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rapporteur de la proposition de loi pour mieux protéger les victimes de violences conjugales. Nous allons parler des violences conjugales. Dans le cadre de cette loi, vous avez déposé un amendement visant à imposer un contrôle d'âge plus contraignant aux éditeurs de sites pornographiques. L'amendement a été voté au Sénat avec le soutien du gouvernement. Absolument. D'ailleurs, il a pratiquement été voté à l'unanimité.
À l'unanimité, votre amendement.
Bien. Alors, on va entrer dans le détail. Oui. Aujourd'hui, pour accéder à n'importe quel site pornographique gratuit, je dis bien gratuit, il suffit de confirmer avoir 18 ans ou plus d'un simple clic.
Mais oui. Vous vous appelez Jean-Jacques, vous êtes majeur et hop, c'est parti le film.
Et hop, c'est parti. J'appuie.
C'est parti. Vous appuyez.
Et c'est parti.
Et
j'ai accès à un site pornographique et j'ai tous les choix.
Le
problème, c'est qu'un mineur peut aussi cliquer.
Mais oui, il s'appelle Jules Gabin Capucine. Il dit qu'il a 19 ans, 40 ans. Oui. Et hop, lui aussi, il a le choix et il a tout d'un coup, par exemple, quatre propositions qui lui arrivent. Il appuie dessus et à chaque fois, je me suis dit, mais à un moment, on va me demander si j'ai bien 18 ans. Jamais. Et on ne me demande même pas de payer.
C'est gratuit. Bien. C'est gratuit. D'ailleurs, comment vivent ces sites pornographiques puisque c'est gratuit?
Parce que si c'est gratuit, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. On croit que c'est gratuit. Mais ensuite, c'est tous ces sites qui ont des noms tout à fait suggestifs. Oui. En fait, ils sont dans des sortes de conglomérats qui ont des sites payants derrière. Et à force de regarder du gratuit, vous êtes quelque part indexé. Ensuite, on vous oblige à vous abonner à quelque chose de payant. Et vous avez des listes comme ça de gens qui se retrouvent.
On vous appâte en quelque sorte. Pour ensuite aller voir plus sur un site payant.
Évidemment. Sinon, ils ne vivraient pas. En fait, ils vivent en termes d'audience. Plus ils ont une audience, plus les publicités vont être chères sur ces sites et donc plus ils ont d'argent. Mais il y a beaucoup d'argent, en fait.
Il y a beaucoup d'argent. Oui, ça représente beaucoup d'ailleurs, cette industrie-là?
C'est des milliards de dollars, en fait. De dollars. Ouais. C'est même pas en centaines d'euros que ça se compte.
Oui, parce que où sont basés ces sites?
Ils sont loin. Ils sont pas en France, parce qu'en France, on a une loi. Et les sites français, ils respectent la loi. Ils font du porno, c'est très bien, c'est pas le sujet, le porno.
Il ne s'agit pas d'interdire le porno.
Mais pas du tout. Par contre, ce qu'on veut interdire, c'est que les mineurs, ils puissent aller facilement comme ça, voir du porno sans même l'avoir décidé. Parce qu'ils sont sur un site, on leur bombarde des images, donc c'est même sans discernement. À partir du moment où c'est un petit objet qu'on appelle un smartphone, c'est à l'entrée au collège où ils font vraiment la recherche volontaire d'aller chercher un film porno.
À l'entrée au collège, beaucoup vont chercher des sites porno et échangent d'ailleurs des images.
Bien sûr, c'est un jeu. Il faut savoir, pour marquer les esprits, vous avez 50% des gamins de moins de 12 ans qui ont déjà vu un film porno. Oui. Et sur quoi? 95%, c'est sur ces plateformes, avec les noms suggestifs que j'ai un petit peu soulignés tout à l'heure.
Alors bon, il est évident qu'un mineur ne pourra pas aller sur un site payant, parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il faut une carte de crédit, j'imagine. Déjà, on est sûr de ça. Oui. Mais le mineur a accès au site gratuit. Oui. Alors pour empêcher cela, vous avez des solutions. L'utilisation d'un portail d'identification, par exemple.
Oui, ce qu'on a mis dans la loi, c'est on a dit il faut un contrôle d'accès d'âge digne de ce nom.
Mais comment faire?
Parce que c'est pas moi toute seule qui va aller contrôler tous ces millions.
Bien sûr.
Et bien on a un monsieur qui s'appelle Monsieur CSA. Monsieur CSA, il sait très bien faire. Vous connaissez bien à la télé, vous n'allez pas avoir un film porno à 17h en rentrant du collège, parce que le CSA veille. C'est son rôle de protéger. Oui. Les mineurs. Donc là, on a dit à Monsieur CSA qu'on avait mis dans la loi l'obligation d'un contrôle d'accès sérieux. Donc Monsieur CSA, il va enjoindre les éditeurs de sites en disant, vous publiez des choses, vous diffusez, vous nous mettez qu'il y a un contrôle d'accès, mais il n'est pas sérieux votre truc. Donc nous, on va bien vérifier que c'est sérieux. Et si ce n'est pas sérieux, dans 15 jours, on vous met au tribunal.
Sauf que les sites sont étrangers. Allez-vous mettre au tribunal des responsables qui sont, en Russie, en Chine, au Japon, aux États-Unis ou n'importe où.
Ils sont aux Caïmans, ils sont dans ils se sentent protégés. Mais on ne va pas renoncer comme ça.
Et comment allez-vous faire?
On va faire parce qu'il y a de l'argent à la clé. Et que si on arrive à les fermer, ne vous inquiétez pas, eux, ils ont des sites payants, les sites gratuits, ils ont des sites payants.
Oui.
Et si on leur...
Donc on ferme tout. Site payant gratuit, on ferme tout.
On va fermer le site gratuit, et comme pour le site payant, ils savent faire le contrôle d'accès. Ils savent le faire, vous savez, ils nous embobinent. Ils savent le faire, ce contrôle d'accès, quand ça les arrange, et bien là, on les obligera à le faire, même s'ils sont très loin dans le monde.
Bien, on va poursuivre. Dans 2 minutes, on fait un peu de pub, on se retrouve. Marie Mercier, sénatrice Les Républicains de Saône-et-Loire. À tout de suite.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct.
Bien, Marie Mercier. Donc, si je comprends bien, le fournisseur, le site, va devoir mettre en place un contrôle.
Absolument.
Lui-même. Et s'il ne met pas en place ce contrôle, cette interdiction d'accès aux mineurs, il sera condamné.
Il va être fermé.
À quoi?
Jusqu'à
la fermeture.
Il n'y a que ça qu'ils vont comprendre. Parce que la fermeture, ça va entraîner une baisse, tout simplement, une baisse de leur rentrée d'argent sur leurs sites payants qui sont couplés aux sites gratuits.
L'amendement concerne les Français. Je suis en France, je me connecte à un site porno, même s'il est étranger.
Oui.
Et vous allez avoir un autre problème. Les VPN.
Oui, je sais.
Ces fameux réseaux privés qui vous permettent, depuis un ordinateur français,
de vous connecter
comme si vous étiez en Allemagne, aux Pays-Bas, n'importe où.
Oui, je sais bien ça. Je sais bien. Mais est-ce que vous croyez qu'on va renoncer à cause de ça? On va trouver tout un tas de raisons de ne pas le faire. Eh bien, si on renonce, ça veut dire qu'on ne progressera jamais.
Et comment allez-vous faire?
Eh bien, comment on va faire? On va les obliger. Mais vraiment, il faut une volonté. Le président de la République l'a dit il y a 6 mois, oui. Il faut que ce soit fermé. À partir du moment où on va vraiment s'emparer de ce sujet. Depuis 2001 que je suis sur ce sujet avec mes ados, moi à Châtenois, où on leur avait donné des ordinateurs. Les animateurs sont venus me voir, ils m'ont dit, oh là là, madame le maire, il voit des trucs qu'il ne devrait pas voir. 2001. Oh, on s'est dit, tiens, on va mettre des parades. Et après, j'ai eu le chef jardinier dans mon bureau de maire qui m'a dit, madame le maire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je peux plus faire les pelouses à Châtenois-le-Royal. On avait mis le mot gazon comme mot.
Ah, oui.
Donc, gazon maudit, il pouvait plus commander son gazon. Je veux dire, dès 2000 ans, on avait essayé, nous, de faire des choses. Alors, c'était un peu drôle. Mais moi, ces petits gamins que j'ai bien connus à Châtenois, en 2001, ils avaient 13 ans. On est en 2019, ils en ont 32. Et le problème se pose pour leurs enfants maintenant. Donc, ce n'est pas sérieux de se dire, on ne peut pas le faire. Et je dis aux informaticiens qui me parlent de sujets compliqués comme vous. Je dis, maintenant, mettez toute votre science à m'aider et à justement trouver la parade. À vous de le faire, ça. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour dire stop à l'accès facile du porno gratuit aux mineurs. Le porno gratuit, s'il est gratuit, il ne peut pas être si bien que ça, il n'est pas très propre. À un moment, on parle de soupçons avérés. Moi, je vous dis qu'il y a du porno vertueux. Voilà, ça peut exister, c'est bien fait. C'est comme tout, il faut que ce soit bien fait.
Bien, Marie Mercier, les violences conjugales, c'est autre chose. Le Sénat, vous êtes sénatrice,
oui.
Vous avez voté pour, j'imagine, puisque le Sénat a adopté à l'unanimité une proposition de loi de La République En Marche sur le texte introduit une exception au secret médical en cas de danger immédiat. Ça m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que le texte autorise un médecin à déroger au secret professionnel lorsqu'il estime en conscience qu'il y a un danger immédiat pour la vie de la victime et situation d'emprise.
Alors, je connais un petit peu le sujet, je suis médecin, c'est mon métier.
Oui, je sais.
Alors, le secret professionnel, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il protège le patient.
Oui.
C'est un lien subtil entre le praticien et son patient qui va se confier. On est la dernière personne à recueillir cette parole. Mais quand vous avez un patient en grand danger, on n'a pas attendu ça. Nous avons l'obligation, dans la loi, de dénoncer les faits. Nous avons toujours un conflit de devoirs quand on est médecin. On recueille une parole comme un secret, comme un trésor, mais s'il y a un péril, si le patient est en grand danger, bien évidemment qu'on dénonce cela. Et là, dans la loi, en fait, c'est comme s'il y avait une petite brèche, mais pas vraiment, parce qu'il faut les deux. Il faut le danger immédiat et l'emprise. Alors ensuite, on part dans la définition de l'emprise. L'emprise, c'est quelque chose de particulier, parce que c'est la prise de possession du psychisme de l'autre.
Mais c'est souvent le cas.
Mais c'est même
dans les violences conjugales,
mais
l'emprise, c'est sans cesse.
Mais bien sûr, si vous n'aviez pas d'emprise, vous prenez votre sac, vous partez,
évidemment.
Mais vous l'aimez. Mais vous l'aimez tellement, vous êtes sous emprise, il a gagné. Au début, c'est souvent l'homme, c'est dans ce sens. Vous dites, mais t'es la plus belle, après t'es la plus moche, mais tu ne vaux rien. Et même quand le bourreau n'est pas là, la femme, elle continue d'être sous emprise, elle continuera de faire ce que son bourreau lui a demandé.
Merci beaucoup, Marie Mercier, d'être venue nous voir ce matin. Merci, il est 7h52, vous êtes sur RMC. Tiens, Nicolas Poincaré, les explications.
RMC, expliquez-nous.
Alors, voilà que le film, on en a parlé déjà ce matin, on en a beaucoup parlé hier, Autant n'emporte le vent, est provisoirement retiré par la plateforme de streaming HBO aux États-Unis dans le contexte du mouvement antiraciste provoqué par la mort de George Floyd. On reproche à ce film de véhiculer des préjugés racistes.
C'est vrai que ce film véhicule des préjugés racistes. Autant en porte-le-vent, c'est un livre où un personnage dit que les nègres sont des singes. C'est un livre et un film qui présente une vision très romantique de l'esclavage. Scarlett O'Hara, l'héroïne, est une riche propriétaire du Sud. Sa famille exploite des esclaves loyaux, heureux de leur sort, qui vont choisir la fidélité à leur maître plutôt que la liberté lorsque la question va se poser. Margaret Mitchell, l'auteur du best-seller, s'est inspirée de la vraie vie de sa grand-mère. Elle en a fait en 1936 un roman qu'on a tous lu, de plus de 1000 pages, son unique roman. Il est devenu 3 ans plus tard un film de 4 heures qui a rapporté le plus d'argent de toute l'histoire du cinéma.
Ça, je ne savais pas.
C'est
le film qui a rapporté le plus d'argent dans l'histoire du cinéma.
Devant Avengers, je crois. Largement devant. Plusieurs milliards de dollars en dollars d'aujourd'hui. C'est un film qui a reçu 8 Oscars, dont un pour Hattie Madison, qui était la première actrice noire à recevoir un Oscar, sauf que le jour de la cérémonie, elle n'a pas eu le droit de s'asseoir au premier rang avec Vivien Leigh et Clark Gable. Elle a dû rester au fond de la salle, parce qu'elle était noire. Bref, c'est un film des années 30, écrit et réalisé dans une Amérique qui était ségrégationniste, qui ne correspond donc plus du tout à notre regard d'aujourd'hui sur ce crime contre l'humanité qu'était l'esclavage.
Bah oui, d'accord. Mais faut-il pour autant censurer le film ?
Je ne crois pas. Je pense que c'est absurde parce que ça fait partie de l'histoire du cinéma, de l'histoire de la littérature, de l'histoire des États-Unis. En réalité, il faut quand même souligner qu'il n'est pas censuré. HBO le retire simplement provisoirement de sa plateforme le temps de rédiger un avertissement, comme on a mis des préfaces d'avertissement au début de livres antisémites de Céline, par exemple. Autant en emporte-le-vent, ça reste visible sur toutes les plateformes. Et en fait, grâce à ce coup de projecteur, eh bien, le livre et le DVD sont actuellement en tête des ventes sur Amazon. On ne peut pas dire que l'œuvre soit en danger.
Bien, c'est surtout révélateur d'un immense mouvement qui a suivi la mort de George Floyd.
Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est une lame de fond antiraciste qui déferle en ce moment sur l'Amérique. Toutes les marques publient des communiqués pour défendre les valeurs du mouvement Black Lives Matter, c'est-à-dire la vie des Noirs compte. La productrice de la série Friends s'est excusée parce qu'il n'y a pas de Noirs dans la célèbre colloque. Adidas promet d'embaucher désormais 30% de POC. Les POC, c'est les personnes of color, une personne de couleur, c'est l'expression la plus utilisée désormais aux États-Unis. L'Oréal s'est excusé pour avoir viré une égérie noire et transgenre il y a 3 ans parce qu'elle était trop véhémente sur la question de l'antiracisme. Et L'Oréal vient de réembaucher cette mannequin, à la fois comme mannequin et comme conseillère diversité. Les auteurs aux États-Unis d'un célèbre dictionnaire ont été interpellés par une universitaire et ils ont accepté de revoir leur définition du mot racisme pour introduire la notion que c'est un groupe de gens qui fait l'objet d'une oppression systématique. Et les éditeurs du dictionnaire se sont même excusés de ne pas avoir défini plus tôt le racisme comme une oppression. Bref, il se passe actuellement quelque chose aux États-Unis. L'agonie de George Floyd a entraîné une vaste introspection, une remise en question. Ça va beaucoup plus loin que cette histoire de censure provisoire d'autant en emporte-le-vent.
Oui, et ce mouvement atteint l'Europe aussi.
Alors, dimanche dernier, à Bristol, oui. Vous avez sans doute vu les images, on a déboulonné et jeté à la rivière une grosse statue en bronze qui représentait Edward Colston. Qui est cet Edward Colston ? C'est un esclavagiste du XVIIe siècle qui a fait fortune en transportant 80 000 esclaves de l'Afrique vers l'Amérique. Le maire de Bristol, qui est lui-même d'origine jamaïcaine, veut maintenant aller repêcher la statue dans la rivière. Il ne veut pas la remettre sur son socle, il veut la mettre dans un musée qui raconterait toute l'histoire, y compris l'histoire du déboulonnage. Voilà, il y aurait à côté de la statue les banderoles que portaient les manifestants antiracistes dimanche dernier. En Belgique, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a recouvert de peinture rouge sang des statues du roi Léopold II. Avec raison, parce que Léopold II, eh bien, c'est le terrible colonisateur du Congo belge. Les historiens estiment que sa politique a fait environ 10 millions de morts au début du XXe siècle. C'est pour ça que certains veulent interdire aussi l'album Tintin au Congo. Non pas parce que la BD est raciste, mais parce qu'elle se passe précisément au Congo, c'est-à-dire là où a eu lieu un des pires crimes de la colonisation.
En France, on va aussi se poser des questions sur des noms de rues ou de lycées.
Voilà, c'est un débat qui revient régulièrement. Par exemple, les très nombreux lycées Jules Ferry, du nom du promoteur de l'école laïque et obligatoire, grand ministre de l'éducation, mais aussi grand partisan de la colonisation et auteur de propos sur la supériorité de la race blanche. L'historien Pascal Blanchard, qui est incontestable sur ces questions, suggère que l'on ne débaptise pas ces lycées, que l'on ne déboulonne pas les statues, mais que par exemple les élèves des lycées Jules Ferry sache qui était Jules Ferry, l'ensemble de son œuvre. Et pareil, pour autant, on emporte le vent. C'est absurde, sans doute, d'interdire le film, mais c'est pas bête de raconter aussi son histoire.
Vous parlez de Pascal Blanchard.
Pascal Blanchard.
Il sera là en direct.
Ah, bah, vous pourrez lui
juste
poser
après
la
le journal de 8h10.
Incontestable,
Incontestable, vous avez même dit. Très, très bien. Bon, allez, nous allons jouer. Vous réagissez, évidemment, ça vous fait réagir. Nous allons jouer, dès que je retrouve ma fiche, parce que je l'ai perdue, mais vous savez, ça arrive. Mais je vais la retrouver, vous inquiétez pas. Oui, d'abord, je sais combien on gagne. Hein. C'est 500 euros par mois, ça fait 6000 euros. Ça, on est bien d'accord. Je vous offre cette somme. Alors, pour cela, il faut répondre à deux questions, enfin à une question, et donner la bonne réponse. Que vit-on depuis le 11 mai ? Écoutez bien, parce que ça nous fait un peu sourire ce matin. 1, le déconfinement. 2, la désinvolture. Vous avez la bonne réponse. réponses. Vous envoyez un pour déconfinement, deux pour désinvolture par SMS 732-16. Le gagnant, la gagnante avec moi demain. Tirage au sort le 12 juin. Il est 7h58. Qu'allons-nous faire?
Mais justement, Pascal Blanchard, historien spécialisé dans l'histoire de la colonisation, de l'immigration, des discriminations, du racisme, avec nous après 8h sur RMC.